Personnages insolites sur Radio Grand Ciel. C'est une émission créée aujourd'hui et réalisée, mais même présentée par Elisabeth Couget et surtout
et Christine Afota.
Bonjour Christine, saluons tous nos auditeurs qui nous retrouvent régulièrement, Christine et moi, lors de ces passages de nos différentes émissions et qui aujourd'hui découvriront peut-être ou le connaissent déjà un de nos personnages insolites dont je voudrais vous parler.
Et bonjour Elisabeth, je propose de remercier tout de suite Simon Martin pour son excellente réalisation technique.
Absolument, il ne faut pas qu'on l'oublie, car c'est grâce à Simon que nous pourrions vous parler d'une fantastique parisienne quelques 180 années après sa naissance, qui était une comédienne hors pair, encensée sur les scènes du monde entier. Et ce personnage insolite n'était autre
que Sarah Bernhardt.
Et c'était une vraie Parisienne. Absolument, et vraiment tout à fait, car elle est née à Paris le 22 octobre 1844 au numéro 5 de la rue des Écoles, donc dans le quartier latin. Elle est donc née à Paris, y a vécu et elle est restée fidèle à cette ville toute sa vie. Et c'est ici qu'elle a connu aussi ses plus grands triomphes.
Ce sont d'ailleurs les Parisiens qui lui ont donné le surnom de Divine.
Et c'est là qu'elle est morte aussi, et un siècle après sa disparition, la divine Sarah Bernhardt n'a rien perdu de son image indélébile de star internationale. Celle que des milliers d'admirateurs ont acclamée de Sydney à New York ou de Rio de Janeiro jusqu'au Caire, était véritablement une comédienne géniale, pouvant interpréter tous les rôles, hommes et femmes, et ce n'était pas tout, car en plus, elle était dotée d'une voix d'or.
Et ça, c'est l'opinion du grand Victor Hugo.
Ah oui, effectivement, car Victor Hugo, l'ayant vu interpréter la reine dans Ruy Blas d'une manière si nouvelle, qui était vraiment typique à elle, car elle mettait en valeur la faiblesse de la femme, la poésie du texte, et Victor Hugo était tellement conquis qu'il lancera à son propos l'expression « voix d'or », qui par la suite sera si souvent reprise pour caractériser ce style vocal assez spécial.
Oui, et on comprend pour quelle raison Sarah Bernhardt est devenue une véritable reine du théâtre.
Et non seulement sur scène, car en fait, elle avait un besoin viscéral de faire parler d'elle. Et pour cela, usée avec brio de la presse, de la photographie et même de la médisance, car elle provoquait quelquefois elle-même ça, et il y avait des ragots aussi qui circulaient à son propos, et tout lui servait finalement.
Ben oui, je pense que tout lui servait pour que l'on parle d'elle, pour faire sa publicité déjà.
Absolument. Comme par exemple, alors ne l'a-t-on pas vue dormir dans un cercueil ou se promener sur les grands boulevards en tenant l'est des lionceaux?
C'est vrai que c'était un peu loin, mais c'était peut-être encore une fois une façon d'attirer l'attention.
Ou de faire apparaître un article où on parle d'elle encore, mais c'était avant tout un immense artiste qui était profondément attaché à sa ville natale, que l'on appelait déjà la ville lumière dans le monde entier.
Mais qui était Sarah Bernhardt? Quelles étaient ses origines?
En réalité, le début de son existence n'était pas si simple que ça. Elle est née, d'ailleurs elle ne s'appelait pas Sarah, elle est née Rosine Bernhardt, enfant naturel d'une mère hollandaise juive, courtisane, installée à Paris, et même enregistrée par la police, puisque les courtisanes étaient numérotées. Son père était un bourgeois qui entretenait sa mère financièrement.
Quand est née la future Sarah Bernhardt?
Alors, Rosine Bernhardt a vu le jour le 24 octobre 1844. Malgré ce début un peu compliqué, enfin qui paraissait un peu compliqué, en tout cas pas très simple, Rosine grandira dans des conditions relativement bonnes, son avenir était finalement assez prometteur à partir du moment où elle est devenue adolescente. Sa petite enfance était quand même pas simple.
Oui. Voilà. Elle était enfant unique ?
Non, la petite Rosine avait deux sœurs. Hélas, et on ne sait vraiment pas pourquoi, sa mère ne l'aimait tout simplement pas vraiment. Alors qu'elle prouvait un amour maternel débordant envers la plus jeune sœur de ses filles, qui s'appelait Jeanne Rosine. Décidément, elle aimait Rosine, hein, ce prénom. Et donc, elle voulait se débarrasser d'elle en l'expédiant chez une nourrice en Bretagne, tout près de Quimperlé, en pleine campagne, où Rosine vivra une enfance plus que solitaire, isolée. Alors imaginez qu'elle ne parlait même pas le français, seulement le breton. Elle a 9 ans lorsque sa vie va enfin changer, et considérablement. Son père va l'envoyer au couvent du Grand Champ à Versailles pour lui offrir une éducation, où elle restera jusqu'en 1858, donc jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors durant ces années au couvent, elle découvre la religion, elle devient mystique, se convertira même au catholicisme et envisage de devenir religieuse. Mais le théâtre est arrivé dans sa vie et c'est au couvent qu'elle va interpréter son tout premier rôle au cours d'un spectacle religieux.
Et quel rôle jouait-elle donc ?
Un ange, tout simplement. Sa mère, la voyant sur scène, décide de l'inscrire au conservatoire. La rencontre entre Rosine et la scène lui causera un véritable choc qui provoquera sa décision. Elle va devenir comédienne.
As-tu parlé des parents de Rosine, Elisabeth, mais il manque quelques précisions. Leur nom, par exemple.
Alors oui, tu as raison, Christine. Sa mère, donc, s'appelait Judith Van Hard. Elle était originaire d'Amsterdam et elle était fille d'un médecin juif danois et d'une juive allemande. Judith n'aime pas son pays. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que Sarah Bernard ose demander si elle était danoise ou hollandaise ou même allemande. Et donc, Judith va s'installer en France comme modiste au Havre.
Et comment y vivait-elle ?
Eh bien, au début, je dirais plutôt difficilement, car la couture ne lui permettait pas d'en vivre. Alors elle sera aidée par de riches messieurs, deviendra courtisane, déclarée, enregistrée par les autorités de Paris, et elle prendra le nom de Yule. Quant à son père, il s'appelait Édouard Vielle, c'était un avoué au Havre, très bel homme, séducteur, qui a conquis facilement le cœur de la jeune Hollandaise. Édouard, malheureusement mêlé à un scandale financier, va se retrouver en prison durant assez longtemps et malheureusement décédera rapidement après sa libération. Alors heureusement, il a eu le temps quand même de reconnaître Sarah avant son entrée au conservatoire.
Sarah qui est toujours Rosine,
absolument.
Je pense.
Donc, curieusement, voilà, elle n'en parlait pas beaucoup, d'ailleurs, c'est étonnant. Oui, effectivement, une fois au théâtre, elle a décidé que Rosine, déjà dans sa famille, elles étaient deux. Donc, elle voulait absolument voilà, changer de prénom et voilà, elle a choisi.
Donc, écoutons un petit peu de musique à présent avant de retrouver la jeune élève du Conservatoire d'art dramatique de Paris.
Thank you.
nous rejoignez maintenant, vous écoutez sur Radio Grand-Ciel notre émission Personnages insolites, qui aujourd'hui est consacrée à Sarah Bernhardt, cette immense comédienne, peintre, sculptrice, que l'on considérait l'impératrice du théâtre. Et la plus grande tragédienne française était la première parmi elles d'avoir mené des tournées triomphales sur les 5 continents. Sarah Bernhardt est devenue une étoile reconnue internationalement, ou encore la première artiste dont l'étoile s'est retrouvée parmi d'autres sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Et c'est pour elle d'ailleurs que Jean Cocteau va inventer la fameuse expression, et vraiment qui lui allait comme un gant. On l'appelait le
monstre sacré.
Absolument.
Voix d'or, monstre sacré. Alors, dans la première partie de notre émission, Elisabeth nous racontait l'enfance de l'artiste, pas toujours facile.
Mais sa vie s'est améliorée lorsqu'elle est entrée au conservatoire grâce à l'aide du duc de Marny, qui était l'amant attitré de sa mère à ce moment-là, et qui, grâce à ses relations et son portefeuille bien gonflé, pouvait obtenir l'accès de cet établissement assez facilement pour Sarah. C'était en 1859.
Et Sarah n'avait alors que 15 ans. Et l'idée de devenir religieuse, finalement un peu saugrenue, s'est peu à peu éloignée d'elle. Complètement même.
Tout à fait. Quoi ? Qu'elle envisageait très sérieusement à l'époque, lors de ses études au conservatoire, mais entre-temps, elle a eu un coup de foudre pour le théâtre. Durant les années du conservatoire, elle a eu quelques déboires dus à son comportement, on peut dire un peu violent. C'est un enfant qui était seul, il fallait qu'elle se débrouille, donc elle se protège. Je crois que c'est ça qui lui avait donné ce caractère un peu
fort,
particulier.
Voilà, rebelle,
exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'était toujours le duc de Marny qui va la sauver d'un renvoi. Mais il faut dire que de toute façon, le talent exceptionnel de Sarah lui servait aussi de rempart de protection au conservatoire.
Combien de temps ont duré ses études au conservatoire ?
Elle a 18 ans en 1862, lorsqu'elle termine le conservatoire, et elle obtient un second prix de comédie.
Et qui donc a eu le premier prix ?
Face à Sarah Bernhardt, on ne sait pas. Certainement, aujourd'hui, on doit être une illustre inconnue. Alors, une fois diplômée, elle jouera d'abord sur les boulevards avant d'être accueillie à la Comédie française. Seulement, son caractère ne change pas. Et très rapidement, elle se retrouvera en mauvaise posture car elle giflera une des sociétaires qui sera, et c'est une chose qui serait très très mal vue. Sarah se retrouvera sans engagement, sans revenu. Seulement, entre-temps, elle a mis au monde un petit garçon qui s'appelait Maurice et qu'il fallait nourrir. Alors, selon l'exemple de sa mère, elle choisira finalement de recevoir l'aide de quelques messieurs et assez vite, elle sera même enregistrée par la police comme sa mère et elle devient une des 415 dames galantes de Paris.
415,
il y en avait à ce moment-là. Considérée comme une demi-mondaine, finalement. Mais ainsi, son fils Maurice était à l'abri, élevé, nourri, et Sarah pouvait jouer au théâtre en même temps.
Et dans quel théâtre jouait-elle ?
En 1866, elle va se produire au théâtre de l'Odéon et y restera durant quelques années.
Elle continue donc à vivre dans le quartier latin.
Ah oui, toujours fidèle à ce quartier. C'est en jouant en travesti, et elle jouait vraiment un vrai travesti dans la pièce Passant de François Coppé, qu'elle se révélera véritablement. Et là, nous sommes en 1869. Et là, Sarah Bernhardt a la bougeotte et retourne à la Comédie française, où cette fois-ci, elle est quand même très appréciée, vers 1874, et les succès sont de plus en plus nombreux.
Elle a alors 30 ans.
À la même période, très attirée par la peinture et la sculpture, Sarah va s'inscrire à l'Académie Julien pour apprendre cet art, mais elle restera fidèle au théâtre. Sa prestation de reine dans Ruy Blas lui a non seulement donné ce nom « Voix d'or » par Victor Hugo, mais en a fait déjà un véritable star. Dans cette période de début de carrière, Sarah Bernhardt apparaît étonnamment frêle, plutôt plaintive par sa voix qui était vraiment un peu bizarre, chantante, mordante, et avec une intonation à l'anglaise, c'est assez curieux. C'est peut-être la Bretagne, je ne sais pas.
En breton.
Breton, je ne sais pas. Elle confirmera sa supériorité par son interprétation dans Phèdre, mais s'imposera véritablement dans Hernani, que Victor Hugo a écrit, bien sûr, vous connaissez. Après tous ses triomphes, la Bougeotte la reprend. Et en 1880, elle va quitter la France.
Mais pour faire quoi? Pour quelle raison?
Elle va entreprendre une série de tournées dans le monde entier. Même quand Sarah n'est pas en France, on parle beaucoup d'elle, d'autant plus que son retour est déjà d'actualité assez rapidement.
Et qu'elle va reprendre ses rôles à la Comédie Française?
Non, elle est très ambitieuse et, méprisant les conventions, préfère l'indépendance qu'elle affirme toujours courageusement. Comme par exemple en 1871, après la défaite de la guerre franco-prussienne, lorsque les détracteurs vont l'attaquer sur ses origines, voilà ce qu'elle leur a déclaré. « Je suis française, messieurs, absolument française. Toute ma famille est originaire de Hollande. Amsterdam est le berceau de mes modestes aïeux. Si j'ai l'accent, et je le regrette beaucoup, mon accent cosmopolite est non tudesque. Je suis une fille de la grande race juive et mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées. »
Effectivement, des paroles bien courageuses.
Et oui, et ces mots qu'elle a prononcés vont en partie inspirer Marcel Proust aussi. Durant ce siège de Paris, alors que l'on lui reprochait son accent, Sarah soignait les militaires et parmi eux, imaginez le futur maréchal Foch, qui n'oubliera jamais la jeune infirmière venue les aider. Et 45 ans plus tard, en 1914, Sarah recevra la croix de la Légion d'honneur pour avoir rendu d'immenses services à la nation en tant qu'infirmière, ainsi qu'à la langue française. Ce service était rendu car dans le monde entier, elle propageait la langue de Molière. Enfin, cela s'est produit plus tard. Alors, je vous propose de revenir encore à la période où Sarah revenait à Paris après ses tournées à l'étranger.
Et tu disais qu'elle n'est pas retournée à la Comédie Française. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
Eh bien, tout simplement, comme durant la tournée, elle a beaucoup... Bon, elle a eu beaucoup d'argent, elle s'est enrichie, elle a acheté un théâtre où vraiment un véritable succès l'attend. Hélas, elle se ruine quand même assez vite.
Et peut-être le gérait-elle trop mal?
Ah, c'est possible, ou sûrement. Pourtant, elle a pu donner libre cours à son goût de la mise en scène, qui était très luxueuse, avant de la ruiner. Alors, elle y a joué le rôle de Théodora merveilleusement. Une fois d'ailleurs ruinée, elle va repartir en tournée. Elle joue tous ses rôles ailleurs, depuis le Pérou jusqu'en Australie et jusqu'en Amérique de nouveau.
Eh bien, pendant tous ces voyages, écoutons peut-être un peu de musique Carmen, je crois.
Oui, parce que je cherchais une musique, ce qu'elle pouvait écouter à cette époque-là.
C'est dommage que nous n'ayons pas la voix, évidemment,
mais c'est l'époque de Bizet et Carmen. Donc, ouais. Voilà.
Donc, écoutons un peu de musique avant de nous retrouver au studio de Radio Grand Ciel pour vous raconter la fin de l'histoire de notre personnage insolite, Sarah Bernhardt.
Absolument. Thank you. Vers la fin du 19e siècle, Sarah Bernhardt, l'actrice française à la voix d'or, dont la sensibilité dramatique marque l'interprétation des répertoires classiques de la France, continuera à jouer, à mettre en scène des pièces magnifiques. Elle s'essaiera même à l'écriture, louera un théâtre pour y jouer Lorenzaccio ou Hamlet. Elle créera L'Aiglon d'Edmond Rostand. Avec sa sensibilité frémissante, sa diction chantante, son jeu tout en souplesse, avec ça, Sarah Bernhardt représente vraiment l'idéal d'une actrice pour la période 1870-1900.
Comme auteure dramatique, qu'a-t-elle écrit et quand ?
C'était après 1900, vers 1907-1910. On se souvient de ses pièces d'ailleurs, de L'aveu ou bien Adrienne le couvreur, mais elle s'est mise aussi à l'écriture de ses mémoires en même temps.
Et qu'est-il advenu de son fils, Maurice ?
Maurice est né donc alors que Sarah avait à peine 20 ans. Il était, on peut dire joliment, le fruit d'une liaison avec un prince belge qui s'appelait Henri de Ligne. Bien sûr, pas reconnu par son père. Et Maurice était élevé passionnément, avec amour, par sa mère, qui disait bien que son seul amour était son fils, dont il faut savoir qu'il est devenu un écrivain. Sarah a eu beaucoup de relations amoureuses avec des célébrités, comme par exemple Gustave Doré, bien entendu Victor Hugo, mais a eu aussi des relations moyennant rétribution lorsqu'elle en avait besoin et des relations encore avec des hommes importants ou politiques comme par exemple Gambetta.
Alors tout à fait autre chose, il me semble qu'elle a été amputée d'une jambe. Que s'est-il passé ?
Eh bien ça a commencé en 1887 lorsqu'elle se blesse sur le pont d'un bateau au cours d'une tournée en direction de l'Australie. Lors des sauts répétés dans la finale de Tosca, et c'est comme ça que l'accident est arrivé, heureusement, ce n'était pas une fracture, seulement une luxation, mais une luxation pas soignée. Vous savez que c'est quelque chose de pas bien. Alors avec le temps, cela s'aggravera, comme c'était prévu, si c'est pas soigné. Et par la suite, dans d'autres occasions, la comédienne, ayant chuté à de nombreuses reprises, des douleurs récurrentes viendront. En 1902, elle voit enfin un médecin. On diagnostique sa maladie, mais ne sera opérée que 13 ans plus tard. Cette maladie était en fait une tuberculose osseuse qui a d'ailleurs provoqué la mort aussi de sa petite sœur en 1894. Donc c'est un problème familial, si on peut dire. En 1915, c'est la gangrène qui la prend à la suite d'un soin, d'ailleurs, où sa jambe était restée bloquée dans un plâtre assez longtemps. Donc, ça devient de la gangrène et on diagnostique finalement cette maladie épouvantable et on l'ampute. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et on l'a amputée au-dessus du genou. Ça s'est passé à Bordeaux. Alors, on va conserver longtemps la partie amputée dans du formol à l'Institut médico-légal de Bordeaux, mais finalement, le formol et la partie amputée, tout simplement, disparaissent.
Elle a eu une jambe en bois ?
Elle ne voulait pas l'utiliser. Oui, il y en avait un, mais bon, elle ne voulait plus trop l'utiliser. Préférait jouer assise. Ira même soigner les poilus devant la cathédrale Martyr de Reims en chaise à porteur. À l'époque de ses tournées, elle a fait quelques rencontres mémorables, comme par exemple en 1891 à Melbourne, où elle a tout simplement rencontré le neveu de Pasteur. Il s'appelait Adrien Loire. À New York, autre chose, c'est Thomas Edison qu'elle rencontre. Et elle a eu donc beaucoup d'autres personnes intéressantes, dont elle a croisé la route au cours de sa vie et de ses tournées.
Mais tout en voyageant énormément, elle n'a au fond jamais déménagé de Paris, plus tard non plus.
Si, vers 1900, elle s'est acheté une belle maison en Bretagne, qui regardait face à la mer.
À Belle-Île.
Ah, absolument. Non loin de Vannes, qu'elle vendra peu de temps avant de mourir, survenue en 1923, qui était donc causée, sa maladie, rien à voir avec sa tuberculose, mais qui était provoquée par l'urémie, donc un problème au rein. Et que pourrais-je vous dire encore à propos de Sarah Bernhardt? Ah oui, c'est ça. Elle a joué dans plus de 120 pièces de théâtre, va tourner des films muets, dont un était vraiment célèbre, et c'était La Reine Elisabeth. Elle a tourné ça en 1912. Alors, Sarah Bernhardt a vraiment marqué son temps et tous les contemporains qui l'ont connue. Et je voudrais terminer cette évocation de notre personnage insolite par les paroles de Sacha Guitry. Madame Sarah jouait un grand rôle dans notre existence, bien sûr après notre père et notre mère. C'était assurément la personne la plus importante au monde à nos yeux.
Tout simplement. Merci, absolument. Elisabeth. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis sur Radio Grand Ciel. À bientôt.
Absolument, pour une autre émission Personnages insolites que Christine nous racontera.
Tacere, chi non vuoi tu, leggi o dirtelo ancora.